La cloche du son du cerf, toute une histoire. Le petit édicule que l'on peut encore voir témoigne du passé médiéval de Briançon. Même si son aspect a pu évoluer au fil des siècles, son emplacement est resté inchangé, comme en témoigne le plan-relief de Briançon établi en 1735. Il abrite aujourd'hui encore une cloche. Celle d'origine fut fondée en 1716 pour la fabrication de la grosse cloche de la collégiale. À proximité, on construisit un corps de garde d'où les soldats pouvaient sonner l'alarme. Les incendies étaient fréquents à Briançon, mais deux marquèrent particulièrement les mémoires. Véronique Fauché, guide conférencière au service du patrimoine de la ville de Briançon, nous en dit plus au micro de Laura Giraud.
Véronique Fauché, vous êtes guide conférencière au service du patrimoine de la ville de Briançon et on va parler de la cloche du son du cerf.
Effectivement, lorsqu'on se promène à Briançon sur le chemin de ronde, qu'on appelle aujourd'hui le chemin des Sentinelles, on est au pied du fort du château, on peut repérer une petite construction qui domine la ville. Une tour maçonnée sur un plan rectangulaire avec une couverture en bardeaux et une fenêtre en plein cintre. Et cette fenêtre abrite une cloche, c'est la cloche qu'on appelle la cloche du son du cerf. Alors un petit mot sur la façon dont on l'écrit, hein. C'est vrai qu'on aurait envie d'écrire son S-O-M parce qu'on pense au son de la cloche. Mais ça serait plus juste d'écrire S-O-M. Somme, ça veut dire sommet en occitan alpin. Et cerf aussi vient de l'occitan et ça signifie également hauteur. Donc ça serait plutôt la cloche du sommet de la colline. À quoi servait cette cloche? Eh bien, c'était une cloche civile. Non pas comme les cloches des églises, mais une cloche qui était là pour prévenir les habitants d'un événement particulier. Rassembler les habitants pour la corvée, par exemple, les canaux au printemps, ou pour prendre une décision importante. Car il faut rappeler que pendant longtemps, le Briançonnais a joui d'un régime particulier, une quasi-indépendance, achetée en 1343 au seigneur dauphin de l'époque, Humbert II, et concrétisée par la Grande Charte des Libertés Briançonnaises, et que donc ces rassemblements pouvaient être fréquents, car la population s'organisait par elle-même avec un conseil de ville. Si on revient à notre cloche, elle se faisait entendre aussi et surtout dans des circonstances plus dramatiques. Par exemple, quand un incendie se déclarait dans la ville. Et là, c'était le tocsin que sonnait la cloche et personne ne s'y trompait. C'est vrai que les incendies étaient fréquents à Briançon. Il y en a deux qui ont marqué particulièrement les mémoires car ils ont détruit pratiquement toute la ville. Le premier en 1624, part de la place du Temple. Alors un témoin de l'époque, un témoin oculaire, nous dit que c'était le premier jour du dernier mois de l'année, sur les 7 heures du soir, et on entendit le tocsin crié par les rues « Au feu !» C'était, dit-on, à la suite d'un vol de pommes dans la grange d'un marchand que se déclara l'incendie. La chandelle qui éclairait les voleurs tomba dans le foin. Et le feu prit aussitôt. Les Briançonnais ont toujours eu la hantise de l'incendie. Leur maison, essentiellement en bois, étant du combustible de premier choix. C'est pour se défendre du feu qu'en 1345, ils ont aménagé le canal au milieu de la grande rue. Ce canal qu'on appelle aujourd'hui la gargouille. C'était la solution pour avoir de l'eau toujours disponible et pouvoir réagir aux premières flammes. Ils avaient mis sur pied une organisation efficace et bien rodée et ont à coup sûr éteint de très nombreux départs d'incendie. Alors, que s'est-il passé cette fois-ci? Il faisait très froid. Si froid que l'eau du canal de la Grande Rue était gelée. Et comme l'hiver était très sec, il n'y avait pas de neige sur les toits, et en plus un vent violent s'était levé, donc tout était rassemblé pour que ça se passe au plus mal. Les bassins des fontaines ont rapidement été épuisés, ensuite les habitants ont pris le vin dans les caves pour essayer d'éteindre les flammes. Ce n'est pas très efficace, et ils ont fini par le boire de dépit. Donc ils se sont réfugiés hors de la ville, et ils ont gardé brûler leur maison pendant 4 jours. Et Briançon brûla pratiquement entièrement. En hiver, à l'hiver 1680, un nouvel incendie ravagea la ville qui, hélas, avait été reconstruite comme il était d'usage, c'est-à-dire essentiellement en bois. Et après ce deuxième incendie, on rebâtit les maisons en pierre. C'est pas qu'on voit des maisons en pierre dans Briançon. Date de cette reconstruction après le deuxième grand incendie. Si on essaie de remonter l'histoire du clocher du son du cerf, on peut dire qu'on le repère sur le plan-relief de Briançon en 1735 et avant sur un tableau de 1644 qui représente Briançon et les saints patrons de la ville, tableau qui se trouve dans la collégiale. Antoine Frauban, donc ce témoin oculaire dont je vous ai parlé plus haut, le cite en 1639. Il l'appelle d'ailleurs le saint du cerf, cloche au tocsin. Et l'unique du clocher planté sur la ville au rocher suréminent. Ensuite, on perd sa trace parce qu'on manque de représentations plus anciennes, en fait. On sait qu'en 1716, on lui enlève sa cloche. Elle est vieille et abîmée. Et on la prend pour la fondre et fabriquer la grosse cloche de la collégiale. C'est le moment où on construit, on est à la fin même de la construction de la collégiale. Bon, bien sûr, on la remplace vite au son du fer et en 1717, il y en a une autre d'installer. On va même construire un petit corps de garde pas trop loin, à proximité, en 1735, où les soldats pouvaient faire rapidement sonner l'alarme. Donc, ils pouvaient mieux repérer et être plus réactifs en cas de problème d'incendie. Alors, ce petit corps de garde, il a disparu aujourd'hui, mais toujours dans les archives, on trouve un état des ouvrages et qui nous permet d'imaginer comment il était. On parle d'une maçonnerie de pierre sèche avec un crépi, une couverture de paille, c'est-à-dire un toit de chaume, en fait. Une couverture de planches sur le mur supérieur, un plancher, des lits de camp de 6 pieds carrés, faits de bonnes planches, une fenêtre, une porte. On fait mettre un demi-pied de terre sur le plancher, un banc pour asseoir les soldats et un poêle. Alors, la mention du poêle, ça peut surprendre, car sur les plans classiques des corps de garde à cette époque, c'est une cheminée pour faire brûler du bois. Et en fait, on trouve une réponse dans une ordonnance royale de 1725. Je lis ce qui est écrit sur cette ordonnance. En fait, Sa Majesté était informée de la nécessité de conserver les bois du Briançonnais, dont l'espèce se trouve considérablement diminuée. Elle a donc décidé de suppléer aux dix bois par du charbon de terre ou houille. Les corps de garde sont donc équipés de poêles qui doivent rester continuellement allumés. Car à allumer un poêle, ça demande qu'on brûle du bois. Ils doivent rester continuellement allumés pendant tout l'hiver. Et l'hiver est défini dans l'ordonnance. Ça va des 15 derniers jours d'octobre jusqu'aux 15 premiers jours de mai. C'est noté que l'hiver est bien long. C'est pas que les soldats étaient partiellement douillés ou choyés. C'est plutôt qu'à cette période, on est dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est une période climatique très froide qui a duré du début du 16e jusqu'à la fin du 19e. Pour conclure, on peut dire qu'aujourd'hui, la cloche du son du fer est discrète, ne sonne plus, mais elle reste quand même un fidèle témoin du passé et de ces grands événements.
Et y a-t-il des visites ou organisées autour de la cloche ?
Non, pas spécifiquement autour de la cloche, parce que c'est un élément qui est assez discret dans le paysage, mais quand on fait certaines visites, on passe là-haut sur ce chemin de ronde, chemin des sentinelles, et on parle de la cloche, bien sûr.